France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La liberté d'expression n'a jamais été aussi vaste qu'aujourd'hui. C'est ce que défend Arnaud Esquéré. Presse, radio, télévision, téléphonie et plus récemment via le numérique, les réseaux sociaux ont permis une continuelle extension des espaces de liberté d'expression. En quelques clics, on peut réagir, donner son avis, son opinion. Et pourtant, un serpent de mer se fait régulièrement entendre dans le débat public. On ne peut plus rien dire. Alors qu'est-ce qui produit et alimente cette confusion? Comment penser les limites de la liberté d'expression en démocratie? Comment la fin du fact-checking interroge-t-elle notre rapport à la vérité et à la liberté d'expression? Pour en parler donc, Arnaud Esquéré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous faites paraître cet ouvrage intitulé « Liberté, vérité, démocratie » qui paraît donc aux éditions Flammes Marion. Et je suis accompagné, comme tous les mercredis, de Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur de rédaction de l'hebdomadaire Le 1. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, tous les deux, dans Question du soir.
Il faut éviter d'avoir une définition trop large, car si tout devient message de haine, évidemment, on ne peut plus rien juger, ou alors il faut tout censurer. Mais ça bloquera complètement la liberté d'expression. Alors, ce que nous trouvons de mauvais goût ou désagréable, est-ce qu'il faut pour autant le censurer? Disons que non. On ne va pas le censurer, même si c'est quelque chose qui nous déplaît fortement. Parce que où on s'arrête sinon? Si vous n'aimez pas quelque chose et vous le censurez, tôt ou tard, ce sera vous qui serez censuré à votre tour.
Elon Musk, qu'on ne présente plus, qui s'exprimait le 20 juin 2023 dans le cadre du forum VivaTech. Et quand je l'écoute, Arnaud Esquéré, Elon Musk, en 2023, je me dis que ses propos sont de bon sens, non?
Ils sont, il fait une confusion entre deux choses différentes qui sont les messages de haine et ce qui nous déplaît quand même. Donc, c'est deux expressions qu'on peut distinguer parce que les messages de haine, si ce sont des appels au meurtre, par exemple, effectivement, il doit y avoir des limites à la liberté d'expression qui fassent en sorte que ce type de message soit interdit dans des situations où ces meurtres peuvent se produire. Donc, et après, il dit une chose, les messages qui nous déplaisent. Alors, je pense que lui est davantage concerné par cette expression et qu'il veut juste avoir dans ses espaces, en tout cas dans l'espace qu'il contrôle, c'est-à-dire X, les messages qui lui plaisent qui sont perçus par les gens auxquels ils s'opposent, évidemment, comme des messages qui déplaisent. Mais c'est plutôt ça l'enjeu, à mon avis.
Julien Bisson.
Oui, est-ce que ça veut dire que Elon Musk a une définition de la liberté d'expression absolutiste, que tout peut se dire sur Twitter, désormais X?
Alors, je pense, si vous voulez, d'abord qu'il faut rappeler que X, comme Facebook, sont des entreprises privées qui utilise quelque chose qui est l'espace public. Et l'espace public, c'est ce qui est au cœur, ou en tout cas ce qu'on peut placer au cœur de ce que nous appelons la démocratie. Si on décide de faire de la liberté d'expression et de l'espace public le cœur de la démocratie, il y a d'autres définitions possibles de la démocratie. On peut mettre l'accent sur la question des élections, mais on peut très bien élire à 90% des voix quelqu'un, et ça peut être qualifié de démocratie.
La démocratie ne se limite pas à l'élection.
C'est pas la conception que je défends, en tout cas pour la démocratie auquel je tiens, et donc cette question centrale de l'espace public et de la liberté d'expression doit être rappelée. Or, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles privatisent en quelque sorte cet espace public, et leur intérêt, c'est pas de faire en sorte que cet espace public fonctionne bien d'un point de vue de la démocratie, c'est d'en tirer des profits. D'en tirer des profits et éventuellement de pouvoir faire passer les idées de leur propriétaire ou de leur actionnaire principal. Donc, si on se replace dans cette perspective, la manière dont Elon Musk raisonne, c'est pas par rapport à son entreprise X, c'est pas dans l'idée de mieux faire fonctionner la démocratie, c'est que lui en tire des bénéfices, qui sont des bénéfices financiers, premièrement, et deuxièmement, qu'il puisse l'utiliser pour influer sur la vie politique dans le sens qu'il souhaite. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il faut positionner avec cette idée qu'il y a d'autres conceptions possibles de l'espace public.
Est-ce que c'est de cette façon-là aussi que vous analysez Arnaud Esquéri, ou en tout cas que vous comprenez la décision de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, de se débarrasser des fact-checkers et de les remplacer par des notes de la communauté, entre guillemets, ce seraient les utilisateurs de Facebook qui viendraient vérifier si les propos tenus sur la plateforme sont véridiques, vrais ou non?
Oui, tout à fait. C'est exactement la même logique d'entrepreneurs qui exploitent quelque chose qui est l'espace public. Ils le font avec des considérations qui sont d'abord des considérations économiques et compte tenu des changements de pouvoir, parce qu'on fait comme si ces entreprises étaient dématérialisées, mais elles sont toujours localisées dans des États, dans des endroits qui peuvent être des villes, comme à la Silicon Valley, et elle tient compte évidemment des rapports de force qui se jouent dans ces endroits. Donc c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et je soulignerai encore une fois que par rapport à cette question du fact-checking, c'est territorialisé. C'est-à-dire en fait, vous pouvez très bien avoir d'autres espaces, d'autres territoires en fait, dans lesquels vous avez une réglementation, une législation qui s'applique différemment. Et il faut quand même rappeler qu'au Brésil, un juge, l'an dernier, a suspendu l'accès à X, c'est 22 millions d'utilisateurs quand même, parce qu'il jugeait que X ne se conformait pas à un certain nombre d'exigences, notamment de fermeture de compte, qui mettaient en cause l'élection de Lula. Il a fait plier Elon Musk. Donc ensuite ça a été rétabli au bout en octobre. Mais donc il y a des moyens tout à fait en fait de réguler cet espace. C'est pas un espace comme ça qui échapperait complètement aux États.
Et sur la dimension territoriale, il faut rappeler effectivement que la décision de Mark Zuckerberg concerne pour l'heure le territoire états-unien. Julien Bisson.
Oui, le discours des propriétaires de ces plateformes, c'est de dire qu'elles permettent l'accès à toutes et à tous à cet espace public et qu'elle permet une liberté d'expression égale pour tous et toutes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde a la même liberté d'expression?
Alors, il y a des éléments qui sont importants à dire, c'est qu'effectivement, avec le développement des réseaux sociaux, mais pas seulement des réseaux sociaux, c'est en fait d'Internet, vous avez une plus grande possibilité d'accéder pour chacune et chacun à l'espace public. Ça, c'est un fait qui est inédit. Auparavant, en fait, cet espace public, l'accès était beaucoup plus réduit et réservé à une élite. Donc, c'est une évolution qui est extrêmement importante. Mais bien sûr, c'est pas parce que chacune et chacun peut avoir accès dès lors qu'il y a Internet, on parle là évidemment des espaces, des États démocratiques, qu'il y a une égalité dans la manière de prendre la parole, et il y a évidemment des effets de réputation et des rapports de force qui se jouent, ce qui fait que la parole de certaines et certains a plus de poids que la parole d'autres. Donc, en fait, l'autre élément qu'il faut souligner, hein, c'est que chacun peut prendre davantage la parole et qu'évidemment ça circule davantage. Donc ça, c'est aussi une dimension très importante de transformation de l'espace public.
Alors à ce propos, hein, je l'ai dit, Arnaud Esquéri, vous faites paraître cet ouvrage aux éditions Flammarion, Liberté, Vérité, Démocratie, et votre thèse pourrait être résumée par cette phrase que vous écrivez vous-même. Pour le dire autrement, le problème de la liberté d'expression aujourd'hui, ce n'est pas qu'on puisse dire moins de choses, mais c'est que ce qu'on dit circulerait trop vite et auprès trop de gens. Fin de citation. Alors expliquez-nous là aussi le paradoxe apparent que vous semblez démonter.
Dans cette manière dont on envisage la liberté d'expression aujourd'hui, d'abord, très souvent, on entend à la fois deux types de discours. Un discours qui est qu'on ne peut plus rien dire, qui est un discours très récurrent, qu'on entend d'ailleurs à différents endroits de l'espace politique. Hein, et un autre discours qu'on entend, c'est qu'il y a une prolifération de mensonges, mensonges, d'énoncer faux, qui fait que ça minerait la croyance en la vérité à l'intérieur d'un espace qui est celui de l'espace démocratique. Ces deux énoncés, en fait, sont souvent prononcés de manière distincte et sont pas rapprochés, mais comme ils coexistent, il faut bien qu'on les rapproche et qu'on s'interroge sur les raisons pour lesquelles ils existent. Et je pense qu'il faut les prendre au sérieux, c'est-à-dire il faut se demander pourquoi est-ce qu'on entend ce type de discours et pourquoi on l'entend par rapport à une histoire qui est une histoire de la transformation de l'espace public et de la transformation de la censure. Si vous voulez, si on a une approche par rapport à l'évolution de ce qu'on appelle la censure, on peut dire que cette censure, dont on oublie en fait qu'elle existait encore pour le cinéma jusqu'en 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing a dit qu'il n'y avait plus de censure, elle a ouvert la possibilité de s'exprimer davantage. Et effectivement, ça, les énoncés circulent beaucoup plus et beaucoup plus fortement à partir de ce moment-là.
Alors à propos de cinéma et de censure, je voudrais vous faire entendre un reportage sur la sortie de La Religieuse de Jacques Rivette, un film qui est sorti en 1967. Et là, on est 20 ans plus tard avec un témoignage d'Anna Karina. C'est dans le journal de Claire Chazal en 1988.
Les passions déchaînées par la tentation du Christ et les incendies se sont à peine éteints que revoici La Religieuse. Le film de Jacques Rivette avait fait scandale il y a plus de 20 ans. Il avait même été totalement interdit avant d'être projeté au plus de 18 ans. Il est maintenant offert à tous les publics.
Voici
Michel Pascal.
Les premières images du film qui a provoqué un scandale retentissant dans la France des années 60.
Je n'ai aucune vocation. Je ne veux pas l'oublier à mes parents.
L'annonce du tournage en 1965 déchaîne la colère des autorités religieuses qui tentent de l'empêcher. Le film terminé, le secrétaire d'État Yvon Bourges l'interdit totalement le 1er avril 1966. L'actrice principale Anna Karina se souvient de ce climat d'hostilité.
Je crois que c'est arrivé comme un choc, je veux dire, de traiter de tous les noms, tous les jours, dans les journaux. C'est un grand classique, je veux dire, Diderot c'est quand même pas n'importe qui.
En réaction, le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Le 1, Julien Bisson.
Oui, cet exemple de La Religieuse, Arnaud Esquiré, qu'est-ce qu'il nous dit finalement? C'est un déplacement du domaine du disciple dans notre société? C'est l'évolution de la liberté d'expression et des normes morales qu'on peut affecter?
Alors effectivement, donc en 1966, la Religieuse, qui est le film de Jacques Rivette, adaptation du roman de Diderot, est interdit. Et ce que ça nous dit, c'est que vous aviez à l'époque une censure qui s'exerçait de manière beaucoup plus forte que quand on voit La Religieuse aujourd'hui, on se demande comment c'était possible. Et donc, si vous voulez, cette évolution par rapport aux films qu'on peut être interdits ou qu'on peut être coupés par la censure, elle témoigne justement d'une extension en fait de ce qu'il est possible à la fois de dire, de montrer, de critiquer aussi, et elle prend le contre-pied en fait de cette expression qu'on entend qui est on ne peut plus rien dire, et on voit bien que ça soit évidemment dans ce domaine qui est la critique de la religion catholique en l'occurrence. Par ce film de Rivette, critique très soft quand même, il faut le dire, aussi bien dans ce qui est montré pour les images en termes de sexualité ou de violence, qui sont un des endroits où s'exerce encore une classification pour les plus jeunes, mais en fait on peut montrer beaucoup plus que ce qui était montré auparavant. Donc vous avez une évolution qui est une évolution vers davantage de liberté d'expression et qu'on peut tout à fait tracer par rapport à l'histoire du cinéma.
Bon, mais si on entre dans le dur tout de même, est-ce qu'effectivement on ne peut plus rien dire aujourd'hui, ou vous estimez à l'inverse que la critique simplement est plus grande, plus vive et plus multiple?
Bien, Effectivement, si vous voulez, l'une des conséquences d'avoir un espace public où chacune et chacun peut prendre la parole, eh bien, c'est que, en fait, on prend la parole pour critiquer. Alors, il y a une multiplication, une prolifération de la critique. Elle ne prend pas forcément la forme que des universitaires aimeraient voir, parce que quand ils parlent de critique, ils s'imaginent que c'est comme si c'était la théorie critique. Mais non, c'est-à-dire des fois, la critique, elle prend une forme brève, en quelques signes, avec des fautes d'orthographe, elle est triviale, elle peut être grossière, elle peut être violente. Et donc, mais c'est la critique. Donc, on ne peut pas déplorer le fait qu'il y ait beaucoup de critiques, alors que c'est justement ce qu'on attend, en fait, de la démocratie. C'est quand on dit qu'il faut qu'il y ait l'esprit critique. Et au fond, cette critique, elle est un signe, en fait, de vitalité de la vie démocratique. Alors, évidemment, elle a une particularité, et ça, c'est aussi quand même quelque chose qui est inédit à ce degré dans l'histoire, c'est qu'elle peut s'exprimer sur Internet beaucoup de manière anonyme. Donc, une des manières de comprendre, en fait, cette phrase « on ne peut plus rien dire », c'est la mesure d'un écart entre ce qu'on dit de manière anonyme ou pseudonyme, et ce qu'on dit sous son nom d'état civil. Et en fait, on a l'impression qu'on peut dire beaucoup plus de choses de manière anonyme ou sous pseudonyme que ce qu'on est obligé d'assumer quand on est en face à face, comme vous et moi actuellement. Et donc, en fait, c'est cet écart qui fait qui correspond aussi à cette phrase qui est qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire.
Julien Bisson.
Oui, il y a deux semaines, on commémorait les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacheur. Qu'est-ce que dit finalement l'évolution de l'esprit Charlie, de notre rapport à la liberté d'expression? Vous parliez de la religieuse et de l'attaque sur la religion. Est-ce que notamment la question du blasphème est la même, la réflexion qu'on pouvait avoir il y a 10 ans?
D'abord, il faut dire, puisqu'on a évoqué la religieuse, que la critique de la religion et des religions, en particulier monothéistes, puisque c'est celles qui sont les plus importantes en France, n'a jamais été chose facile. C'est toujours donc que ça s'inscrit dans une histoire. Vous avez toujours eu des points de friction lors de la critique de la religion, que ce soit la religion catholique, évidemment, puisqu'on a parlé de la religieuse, mais il y a eu d'autres affaires. Et en ce qui concerne les islams, vous avez eu aussi une histoire qui ne commence pas avec Charlie, puisqu'il y a eu Salman Rushdie en 1989, les versets sataniques, une affaire qui a continué encore qui continue encore aujourd'hui.
Et qui a coûté cher à Salman Rushdie.
Qui a coûté cher à Salman Rushdie, à ses traducteurs, à ses éditeurs, etc., puisqu'il a perdu un œil après une attaque de 12 coups de couteau en 2022. Cette question de la place de la religion ou des religions à l'intérieur de la société, elle et de la critique qui peut en être faite, elle est toujours une source de tension. Elle est d'autant plus une source de tension dans une société où le rapport des religions a beaucoup changé, parce que on oublie en fait que si on regarde en tout cas une enquête de l'INSEE qui date de 2023, 51% hein, des personnes interrogées des 18-59 ans se déclarent sans religion, mais vous avez à peu près 30%, 29% qui se disent catholiques, 11% qui se disent musulmans et 10% qui se disent autres chrétiens. Et donc, vous avez une transformation de ces rapports avec une baisse des catholiques et une montée des personnes qui se disent musulmanes, ce qui fait que il faut apprendre à vivre avec ces différentes religions à l'intérieur de l'espace public. Je suis pas sûr que si vous voulez, il y ait je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une perte de l'esprit Charlie Hebdo, mais simplement en fait il y a une tension permanente sur ces questions en fait de critique de la religion sur ce fond en fait de modification à l'intérieur de l'espace de la société française des différentes pratiques religieuses.
Mais tout de même, Arnaud Esquéré, si je reviens un instant sur le sujet de la censure, on a bien compris que la censure d'État n'existait plus telle qu'elle existait auparavant. Est-ce que cette censure ne s'est pas déplacé dans la sphère des entreprises privées. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas certaines entreprises, notamment les grandes plateformes, qui organisent sciemment cette censure? Je pense notamment à tous les débats qu'il y a sur les contenus politiques, hein, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube également. Est-ce que cette censure-là n'est pas différente, certes, mais tout aussi forte?
Alors, en effet, vous avez raison, c'est-à-dire on peut distinguer au moins trois grands types de censure, mais disons là on va en parler de deux, qui est une censure qu'on pourrait dire institutionnelle, qui était exercée par l'État ou par l'Église, qui pouvait être a priori, c'est-à-dire avant que les messages soient dans l'espace public, ou a posteriori comme le faisait l'Église, c'est-à-dire une condamnation morale qui s'exerçait sur ces messages. Et ce type de censure, en fait, ça disparaît les derniers vestiges de ce type de censure disparaissent après mai 68 et dans les années 70, milieu des années 70. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que ça avait disparu que le terme de censure n'a plus été utilisé. On a continué à garder un usage du terme de censure. Simplement, il s'est appliqué complètement différemment puisque tout devait être potentiellement censure, puisque la censure devenait intériorisée, c'est-à-dire ce qu'on appelait une sélection, ou par exemple, si vous sélectionnez un certain nombre d'œuvres d'art pour une exposition, les murs étant pas extensibles, vous pouvez pas mettre toutes les œuvres. Et donc, si vous faites un choix, les gens qui sont pas sélectionnés vont dire c'est une censure. Donc, vous avez ce type de censure qui se forme sous forme d'accusation. Et puis, effectivement, est apparu un nouveau type de censure qui est assumé d'ailleurs comme tel par des entreprises qu'on peut appeler censure marchande, parce que elles sont mises en place par des entreprises sur des espaces dont ils doivent assurer une modération et elles se déploient sur certains types de réseaux sociaux et par les éditeurs, c'est-à-dire par les sites qui créent des espaces de discussion où ils doivent assurer cette censure. Elle suit, si vous voulez, cependant, les lignes qui sont fixées par l'État. C'est-à-dire, c'est un peu comme si l'État déléguait à des entreprises les principes à suivre en matière de liberté d'expression.
Julien Bisson.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle, justement, que ce soit que l'État délègue à ses entreprises privées le fait de faire respecter la censure et les règles qu'il souhaite?
La mauvaise nouvelle, c'est que ça serait ce qu'il n'y aurait pas de limite à la liberté d'expression, parce que si vous voulez, il faut des règles minimales à la liberté d'expression, il faut pouvoir les faire respecter. La question, en fait, qui se pose, encore une fois, c'est la question de savoir pourquoi l'espace public que nous utilisons le plus couramment sur les réseaux sociaux n'est pas un espace qui soit le nôtre, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un espace privé ou privatisé par des entreprises. On pourrait s'inquiéter en disant, mais est-ce que je pense par exemple à des réseaux qui sont évidemment beaucoup moins de membres comme Mastodon, qui n'a que 1 ou 2 millions de membres, ou Blue Sky, comparé aux 400 millions à peu estimés de X, où en fait il y a un autocontrôle, en fait, des personnes qui prennent la parole. Et si vous voulez, quand on se pose la question de savoir si un espace public que chacune et chacun, ou enfin en tout cas qui partirait du bas et qui serait pas aux mains d'entreprises privées est réaliste ou possible, on peut rappeler en fait que vous aviez à la fin des années 70 et puis au début des années 80 ce qu'on a appelé les radios libres et puis après les radios associatives, et qui étaient organisées comme ça. Et il y a un espace qui était par ailleurs régulé, parce qu'il y a des autorités, il y a des juges qui peuvent tout à fait contrôler cet espace.
Je voudrais, Arnaud Esquerré, vous faire entendre Dan Arbib. Il est philosophe spécialiste de Spinoza. Il s'exprimait en décembre 2024, il y a quelques semaines donc, dans Avec Philosophie.
Le pouvoir politique pourrait croire qu'il est nécessaire de restreindre la liberté de parole pour maintenir son propre pouvoir. En fait, Spinoza nous apprend le contraire. Si vous restreignez la liberté de parole, vous fomentez les complots, vous fomentez l'hypocrisie, vous fomentez les silences, et par conséquent, vous fomentez des germes de rébellion contre le pouvoir politique. Et donc, si vous voulez, la liberté d'expression ne va pas contre le pouvoir politique, elle en permet la perpétuation.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat établi, Arnaud Esquerré?
Je pense qu'il faut absolument défendre la liberté d'expression, mais qu'une liberté d'expression qui est sans limite n'est pas une liberté d'expression concevable et qu'il faut toujours des limites à la liberté d'expression qui touchent à la question de la violence pour qu'on puisse garder la liberté d'expression. C'est-à-dire, en fait, la condition nécessaire pour qu'on ait un cadre dans lequel on puisse s'exprimer librement, c'est qu'il y ait des limites à ce cadre.
Mais voilà. Comment est-ce qu'on...
Et que c'est des règles minimales, en fait, de fonctionnement de la liberté d'expression. Donc, vous avez toujours des limites à cette liberté.
Pardon. Non, je vous en prie. Merci beaucoup de ces explications, Arnaud Esquerret. Puis je vais rappeler le titre de votre ouvrage, Un triptyque, Liberté, Vérité, Démocratie, un ouvrage qui paraît aux éditions Flammarion. Je rappelle que vous êtes vous-même sociologue, directeur de recherche au CNRS. Merci, Julien, de cette interview. Qu'est-ce que l'on trouve aujourd'hui, cette semaine même, dans l'hebdomadaire Le 1 ?
Eh bien, cette saison, Trump à la conquête du monde, carte et analyse pour comprendre la stratégie de déstabilisation du nouveau président américain.
Tout donc pour comprendre cette déstabilisation toute la semaine. Merci beaucoup à vous deux d'être venus ce soir dans Question du soir.